Radio Prague, les informations.
Agression contre une base de soldats tchèques en Afghanistan. Plus de la moitié des céréales en Tchéquie déjà récoltées. 3,5 millions de touristes hébergés en Tchéquie au cours du deuxième trimestre 2012. La base Chang dans la province Logar, en Afghanistan, où opèrent des soldats tchèques, a été attaquée par un agresseur suicidaire. Un véhicule chargé d'explosifs s'est écrasé contre la porte de la base de Chang et a explosé. Lors de l'attentat, 34 personnes ont été blessées, mais il ne s'agit pas de soldats tchèques. Selon Yana Ružičková de l'état-major de l'armée tchèque, tous les membres du team de reconstruction tchèque dans la base de Logar se portent bien. D'après les informations encore non confirmées, une personne a été tuée. Selon l'agence France-Presse, l'attentat a déjà été revendiqué par le mouvement taliban. La moisson en République tchèque se poursuit malgré les intempéries de ces derniers jours. Actuellement, 58% des céréales et 97% du colza sont déjà récoltés. Les agriculteurs ont réussi à ramener dans les granges les céréales de 765 000 hectares de champs de céréales et de presque 370 000 hectares de champs de colza. Cette année, le rendement des céréales par hectare est inférieur de 20% par rapport à la moisson de l'année dernière. Le rendement du colza est inférieur de 10%. 3,5 millions de touristes ont été hébergés en République tchèque au cours du deuxième trimestre de cette année, ce qui est de 1,6% de plus que dans la même période de l'année dernière. Ils ont passé dans des hôtels, des pensions et des campings 9,7 millions de nuits, ce qui est une augmentation de 0,2%. Selon ces informations publiées par l'Office national de statistiques, cette augmentation est due notamment aux touristes étrangers venus de Russie et des États-Unis. Les inscriptions pour les candidats qui souhaitent se présenter aux élections sénatoriales et régionales se sont terminées dans l'après-midi de ce mardi à 16h. Elles auront lieu les samedis et dimanches, 12 et 13 octobre 2012. Un tiers du Sénat sera alors renouvelé. Les logements situés dans le quartier Přednádraží à Ostrava, Moravie du Nord, que 140 personnes, essentiellement d'origine rome, ont refusé de quitter, sont toujours insalubres et très dangereux pour la santé. Ce sont les conclusions des contrôles effectués lundi par des inspecteurs de la santé publique. Les autorités avaient appelé les habitants de ce ghetto à quitter leur logement avant samedi pour des raisons sanitaires. 25 familles seulement ont accepté d'être relogées. Au cas où la retraite moyenne tomberait au-dessous des 40% du salaire moyen en République tchèque, le sénateur du Parti social-démocrate tchèque porterait plainte auprès de la Cour constitutionnelle contre la loi sur la réduction de la valorisation des retraites. Il rappelle que la République tchèque est signataire d'une convention internationale qui stipule que les prestations d'assurance vieillesse doivent atteindre au moins 40% du salaire brut. Sport. Aux Jeux Olympiques de Londres, la lanceuse de javelot tchèque Barbora Špotáková s'est qualifiée pour la finale. De même, les équipes tchèques masculines de canoë et de kayak se sont qualifiées pour les finales en C2 et en K4. La Tchéquie sera également représentée mercredi en finale du 400 mètres et grâce à Zuzana Hejnová et Denisa Rosolová. La République tchèque a pour l'instant remporté 5 médailles, dont une en or grâce à la rameuse Miroslava Knapková. Météo. Mercredi, le temps en République tchèque sera variable à nuageux avec quelques averses par endroit. Les températures maximales s'échelonneront de 20 à 24 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter qui cède maintenant le micro à Pierre Maignan.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité et merci à Václav Richter pour son bulletin d'information. À la une aujourd'hui, la deuxième édition de la Prague Pride, le festival LGBT en passe de devenir une référence en Europe centrale. Malheureusement, des associations ultra-conservatrices et notamment le mouvement Dost tentent de gâcher la fête, nous le verrons. Nous poursuivrons ensuite avec notre désormais traditionnel questionnaire de Proust. Aujourd'hui, c'est l'ancienne programmatiste du Festival international du film de Carlo Vivari qui s'est prêtée à ce petit jeu des questions-réponses. réponse au micro d'Anna Kubishta. Pour finir, nous nous intéresserons au projet Galileo, un système de positionnement par satellite dont le siège sera à Prague. Alexis Rosenzweig s'est entretenu avec Paul Flamand, l'un des administrateurs du projet pour l'Union européenne. Bonne écoute à tous et à toutes. De lundi à dimanche prochain aura lieu dans la capitale tchèque la deuxième édition de la Prague Pride, un événement déjà majeur pour les militants ou sympathisants LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, puisque près de 25 000 personnes y avaient participé l'année dernière. Les organisateurs espèrent en réunir au moins autant cette année et faire découvrir des populations souvent méconnues telles que les Roms LGBT. Cependant, comme en 2011, des mouvements ultra-conservateurs font également parler d'eux, à l'image de l'initiative d'Ost, qui souhaite organiser une contre-manifestation pour, prétend-elle, défendre la fierté des gens normaux. La première édition de la Prague Pride, qui se voulait être un festival de la tolérance et avait mobilisé de nombreux manifestants dans une ambiance festive et détendue, avait été une vraie réussite. Fort de ce succès, les organisateurs espèrent réunir encore plus de monde et informer sur les problématiques et parfois les discriminations qui touchent les personnes LGBT en République tchèque. Le festival se déroule du 13 au 19 août et propose un riche programme, des expositions, du théâtre, des projections de films, des conférences et le clou du spectacle, le samedi 18, la fameuse parade qui partira de la place Venceslas pour rejoindre l'île Tchedlecki, sur laquelle se tiendra une série de concerts. L'ambition affichée cette année est de porter l'accent sur des thématiques peu connues, parfois même au sein des mouvements LGBT. Programmatrice en chef du festival, Hanna Kulankova apporte quelques détails sur les sujets développés.
Nous aurons des soirées à thème sur tous les éléments qui composent notre mouvement, tels que l'homosexualité rome. Il y aura de nombreux débats et nous aurons des projections de films sur les personnes qui sont lesbiennes et handicapées.
En tout, une trentaine de manifestations sont organisées. L'association Proud, pour Plateforme pour l'égalité des droits, la reconnaissance et la diversité, a attribué son prix BIPROD 2012 à la Prague Pride. Selon Lukáš Sapík, l'un des organisateurs de l'événement, seule une forte médiatisation permet à certaines personnes LGBT de combattre leur sentiment d'exclusion et force le monde politique à accepter la réalité d'une société aux identités sexuelles multiples.
La Prague Pride a vraiment eu un accès aux médias unique. Cela a fait réagir beaucoup de politiques et grâce à cela, de nombreuses personnes sont tout simplement venues.
De nombreux politiques avaient en effet réagi, mais certains pour s'élever contre la tenue du festival. Le président Václav Klaus lui-même s'était exprimé. S'il n'a rien contre les homosexuels, je cite, il dénonçait tout de même un événement qui ferait l'apologie de l'homosexualisme, un néologisme désignant la promotion de l'homosexualité contre l'hétérosexualité. Ce à quoi le journaliste, écrivain et dramaturge Karel Vizdala répondait sur les ondes de Radio Wave, ne nous inquiétons pas de Klaus, mais du klausisme. À nouveau, des voix célèbres contre la deuxième édition de la Prague Pride, souvent les mêmes. Le mouvement Dost est à la pointe de ce combat réactionnaire. Dost, ce sont les initiales de foi, objectivité, liberté et tradition. Un vaste programme, le tout signifiant assez. En 2011, l'ancien président de ce mouvement, le très controversé Ladislav Batora, qui a un temps été candidat pour un parti d'extrême droite, mais aussi fonctionnaire du ministère de l'Éducation et soutenu par Václav Klaus, expliquait son opposition à la Prague Pride.
Je suis d'avis que dans une société conservatrice, la question de la lutte pour les droits des homosexuels, que nous appelons homosexualisme, ne devrait pas être soutenue. De plus, ce qui nous déconcerte, c'est que le maire de Prague patronne une telle manifestation alors qu'il appartient au parti ODS qui se déclare conservateur.
Cette année à nouveau, ce mouvement proche de l'extrême droite et des catholiques intégristes qui défend la famille traditionnelle et s'oppose au droit à l'avortement et à la liberté de définir son orientation sexuelle souhaite organiser une contre-manifestation à la Prague Pride. Sans doute par provocation, ses responsables ont demandé au maire de Prague, Bohuslav Svoboda, de patronner cette marche. Celui-ci a refusé. Il avait d'ailleurs déjà précisé qu'un événement promouvant la tolérance à Prague était une bonne chose. Les militants de Dost ont fait la même demande auprès du Premier ministre Petr Nečas. place. L'enjeu du mouvement est sans doute d'acquérir une certaine légitimité en se positionnant dans le sillage d'une droite conservatrice modérée. Les organisateurs de la Prague Pride ont déclaré ne pas être surpris et qu'ils s'attendaient à ces expressions de haine et d'intolérance. Mais si le festival rencontre le même succès que l'année dernière, celles-ci passeront inaperçues. Suite de notre mini-série de l'été où nous vous proposons un petit questionnaire de Proust. Plusieurs personnalités tchèques que nous apprécions à Radio Prague et que nous avons déjà interrogées par le passé se sont prêtées à ce petit jeu des questions-réponses. Aujourd'hui, notre invitée est Eva Zaoralova, ancienne directrice artistique du Festival international du film de Carlo Vivari, désormais conseillère artistique, femme de caractère, femme énergique. Elle est la mémoire vivante du festival et la personnalité incontournable pour parler de cinéma. Anna Kubishta.
Quel est le principal trait de votre caractère?
Ah, c'est je suis un peu colérique peut-être, parce que j'éclate très facilement.
Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis et chez vos proches?
L'honnêteté.
Quelle est votre occupation préférée?
Ah, c'est le cinéma et même la traduction, parce que je traduis aussi les livres, mais plutôt de l'italien. J'ai traduit pas quelques livres du français, mais maintenant, depuis 20 ans, je traduis de l'italien.
Quel est votre rêve de bonheur?
Être sain, être en bonne santé, avoir mes proches autour de moi.
Quel est le pays où vous désireriez vivre si vous ne viviez pas ici?
Ah oui, en France ou en Italie.
Quels sont vos auteurs favoris en prose?
En littérature, ça change beaucoup parce que j'ai vraiment aimé beaucoup Anatole France quand j'étais à la faculté. Et aujourd'hui, alors après, je ne peux pas dire d'avoir des préférences parce que, à vrai dire, depuis quand je m'occupe du festival, je ne lis plus. Je ne lis que la lecture, la littérature, du cinéma.
Quels sont peut-être alors les comédiens que vous préférez?
Ah, c'était Gérard Philippe, bien sûr, à l'époque. Aujourd'hui, vous savez, c'est très difficile pour moi ces questions parce que j'ai pas de préférence. Non, c'est pas comme ça.
Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout?
Peut-être le mensonge.
Quel est le don de la nature que vous voudriez avoir?
Le don de la nature, bon. Peut-être j'aurais besoin d'être plus patiente. Parce que quelquefois, je fais des choses trop vite, trop abruptes.
Quelle est la réforme politique que vous admirez le plus?
Réforme politique.
S'il y a une loi ou quelque chose qui vous semble...
Bon, alors j'apprécie la démocratie parce que c'est mauvais. Il y a beaucoup de défauts, mais de toute façon, c'est comme Churchill a dit, on n'a inventé rien de meilleur.
Quelle est votre devise?
Oida uk eidenoi, Socrate, je sais que je ne sais rien.
Le siège de Galileo sera à Prague. L'accord final a été conclu début janvier dans le cadre d'une conférence sur le système européen de navigation par satellite organisée dans la capitale tchèque. À l'occasion de cet événement, pour parler plus en détail de ce qu'est Galileo, Alexis Rosenzweig s'était entretenu avec Paul Flamand, l'un des responsables de la Commission européenne. Alors que Galileo doit être officiellement lancé début septembre, c'est l'occasion de revenir sur les enjeux de ce projet ambitieux qui doit venir concurrencer le GPS américain.
Panorama.
Panorama.
Paul Flamand, bonjour. Quel est l'enjeu de cette conférence Galileo organisée à Prague?
Je pense que le focus principal de cette conférence est orienté sur les applications de la navigation par satellite. Mais la raison pour laquelle cette conférence se déroule ici aujourd'hui, c'est que l'agence qui va gérer les programmes Galileo et EGNOS dans le futur s'installe à Prague en 2012.
Alors EGNOS, pour ceux qui ne sont pas très au courant de tous ces dossiers, ça veut dire quoi?
Donc aujourd'hui, il existe un système mondial de radionavigation par satellite qui est le GPS américain. Tout le monde le connaît parce que ça permet de conduire les voitures aujourd'hui, entre autres. L'Europe, depuis maintenant une dizaine d'années, a développé un système pour améliorer les performances de ce GPS au-dessus des territoires européens. Donc EGNOS, c'est un système qui améliore les performances en termes de précision de localisation des équipements, des voitures, des trains, des avions, des bateaux, et qui permet également d'assurer ce qu'on appelle l'intégrité des signaux GPS. Aujourd'hui, quand un avion atterrit sur un aéroport, il a besoin de savoir si les informations qu'il reçoit du GPS sont 100% fiables. Ce que fait le système EGNOS, c'est de rajouter justement cette information sur la fiabilité de ce qui arrive du GPS. Comme ça, un avion qui atterrit peut savoir si les satellites GPS qu'il a au-dessus de lui sont réellement en fonction et qu'ils fonctionnent correctement. Et donc, ça lui permet de savoir si l'information de localisation dont il dispose est correcte. Parce que pour un avion, il est très important de savoir si la précision est correcte à 4 ou 5 mètres près, parce que ça permet d'atterrir sur la piste ou à côté de la piste. Et EGNOS lui donne cette information de fiabilité.
On en est où pour Galileo? On a une date pour l'instant fixée à 2014. Est-ce que les délais seront tenus?
Alors les délais sur Galileo sont assez compliqués parce qu'en réalité l'Europe met en place une machine qui est nouvelle, qui est complexe et pour laquelle l'Union européenne et les industries de l'Union européenne ont dû apprendre. Aujourd'hui effectivement sur le papier l'ensemble des conditions sont là pour que fin 2014 nous ayons déjà des services qui puissent être mis à disposition des utilisateurs. Alors on parle de services. Derrière la fourniture de services il y a une architecture avec une infrastructure avec des stations au sol et des satellites en orbite. Donc on va graduellement, dès que l'on met des satellites en orbite, on commence à pouvoir fournir des services, parce que ces services, on les conçoit en interopérabilité avec le GPS américain. Donc aujourd'hui, il y a déjà deux satellites Galileo opérationnels, à la limite, les récepteurs qui seraient équipés des chaînes de réception pour Galileo peuvent déjà utiliser ces satellites-là. Au fur et à mesure que l'on va augmenter le nombre de satellites, au fur et à mesure que les précisions vont devenir meilleures et les utilisateurs pourront réellement tabler sur les satellites Galileo.
Vous parlez de précision. Je crois qu'aujourd'hui, le GPS permet une précision à 20 mètres, en tout cas pour les services gratuits, et que Galileo a pour ambition d'avoir une précision à 4 mètres.
Effectivement, la précision qu'offre le GPS est entre 10 et 20 mètres. Et quand Galileo sera là, on descendra au niveau du mètre. Alors maintenant, pour les utilisateurs, je dirais lambda pour tout le monde, pour monsieur tout le monde, c'est vrai qu'on parle toujours en termes de précision. Mais après, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Il y a la couverture, parce qu'à certains moments, à certains endroits, le GPS n'offre pas la couverture de 10 à 20 mètres. Il y a une question de disponibilité en termes de temps. Ce dont on parle, c'est pendant 98% du temps, effectivement, cela offre cette précision, mais pendant 1 ou 2% du temps, ça n'offre pas la précision. Donc, effectivement, le terme de précision est simple parce qu'il frappe l'esprit, mais au niveau technique, il y a d'autres paramètres à mettre en œuvre. Mais toujours est-il que lorsque, effectivement, Galileo sera là, les utilisateurs pourront disposer d'une précision de l'ordre du mètre.
Alors, c'est un détail technique, mais il y a aussi derrière ça un enjeu géostratégique, géopolitique, puisque le GPS est un monopole américain, que les Américains peuvent l'éteindre ou en tout cas restreindre son utilisation. Notamment, ça s'est passé pendant la guerre d'Irak ou pendant le bombardement de l'ex-Yougoslavie, il me semble. C'est donc un enjeu très européen. Vous êtes bien placé à la Commission pour savoir que ça a été compliqué entre les États membres de faire passer ce projet et que aujourd'hui, même si c'est sur la bonne voie, ça reste quand même compliqué.
Bon, alors techniquement, le système est effectivement un peu compliqué, mais pour les utilisateurs, l'important, c'est de se dire aujourd'hui, on dispose d'un système qui est le GPS américain. Les Américains sont nos amis. Cela m'étonnerait qu'un jour ils décident de restreindre l'accès du GPS au-dessus de l'Europe. Toujours est-il qu'il y a des ingénieurs qui travaillent sur ces projets. Les ingénieurs vous diront toujours, il est bon de disposer d'un système, il est meilleur de disposer de deux systèmes. pour de simples raisons de, on appelle ça en anglais, de backup.
De solution de secours.
De solution de secours, exactement. Donc, baser des applications sur un seul et unique système qui est contrôlé par un centre de contrôle et que ce centre de contrôle pourrait avoir des problèmes, c'est dangereux. On dit aujourd'hui que 6% de l'économie, de l'activité économique dans les pays industrialisés utilise le positionnement et le temps fourni par le système GPS. Donc ça veut dire que 6% de nos économies sont dépendantes d'un système que l'on ne contrôle pas du tout, qui est ce GPS américain. Donc pour de simples raisons de sagesse, il est bon qu'il y ait au moins un deuxième système qui puisse prendre le relais si jamais le premier système devait avoir des problèmes. Donc ça, c'est une très bonne raison, première très bonne raison. Et deuxième raison, c'est pour les industries européennes, il est bon également d'apprendre et d'avoir la maîtrise des techniques de navigation par satellite. Parce que jusqu'il y a une dizaine d'années, les seules sociétés qui fabriquaient des récepteurs de navigation et qui concevaient des applications basées sur la navigation par satellite, c'était des industries américaines. Depuis que le projet Galileo a été mis en place, eh bien, les industriels européens commencent à avoir le know-how, les compétences, le savoir-faire pour eux aussi développer des récepteurs et développer des applications. Et c'est là que se trouve le réel enjeu, c'est dans les applications, pas dans la mise en place d'un système lui-même, c'est dans les applications. Et Galileo a permis aux industriels européens d'acquérir les connaissances nécessaires pour les applications.
Ça n'empêche pas que la conférence qui est organisée à Prague était sponsorisée, où le principal partenaire était Honeywell.
Oui, ça c'est intéressant. Effectivement, donc les autorités tchèques ou les autorités de Prague ont visiblement des partenariats avec cette société Honeywell. Personnellement, j'ai parlé avec le représentant Honeywell ici qui me disait Honeywell, il ne faut pas la voir comme une société américaine. C'est une société internationale, comme peut l'être Siemens, par exemple, qui est aussi une société internationale, qui a aussi des activités aux États-Unis. Et ils ont des compétences. Ces compétences-là peuvent être utilisées dans les systèmes de navigation, d'où la présence de Honeywell ici à cette conférence. Et il semblerait qu'ils ont des centres de recherche importants ici à Prague, raison pour laquelle ils sont présents et pour laquelle ils ont décidé de mettre de l'argent dans la conférence.
Qu'est-ce que sera ce centre pragois de Galileo ? Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu de ce qu'il va y avoir ici dans la capitale tchèque ?
D'accord. Donc alors aujourd'hui, le projet de la navigation par satellite est géré par la Commission européenne à Bruxelles. Et nous utilisons l'Agence spatiale européenne comme expert technique, comme architecte technique, si vous voulez. La Commission européenne, d'une certaine manière, n'a pas vocation à gérer des programmes technologiques comme Galileo. Il se fait que pour des raisons historiques, aujourd'hui la gestion se fait depuis Bruxelles par la Commission européenne, mais l'idée est donc d'externaliser la gestion du programme vers cette agence qu'on appelle la GSA, ici à Prague. Donc toutes les activités de gestion du programme vont être transférées à Prague. Ne restera à Bruxelles plus que les aspects de propriété, parce que l'Union européenne reste propriétaire du système. Il y a aussi une responsabilité vis-à-vis du Parlement européen, du Conseil européen. Bon, la Commission va continuer à jouer ce rôle-là. Et puis il y a aussi des activités de relations internationales qui resteront à Bruxelles. Mais tout le reste, c'est-à-dire les choix sur combien de satellites il faut mettre en place, quel sera l'exploitant technique du système, comment est-ce qu'on va créer les interfaces nécessaires avec les utilisateurs, eh bien tout ça sera géré depuis le centre GSA à Prague.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
C'était Paul Flamand au micro d'Alexis Rosenzweig pour nous parler du projet européen Galileo. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous était présenté par Pierre Ménian. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. À très bientôt.